comme nous l'avons chanté, que le Seigneur puisse ouvrir les yeux de notre cœur afin que nous sachions que l'Esprit puisse nous révéler encore les choses profondes. Et plus nous méditons la parole de Dieu et plus nous nous apercevons qu'elle est profonde, cette parole, parce que notre Dieu est profond, l'Esprit va en profondeur, que le Seigneur ouvre les yeux de notre cœur. Et comme Ézéchiel a eu cette vision, que nous n'ayons pas de l'eau jusqu'aux chevilles, simplement un peu de rafraîchissement, mais que eh bien, nous puissions avancer. Merci Seigneur pour ce qu'il a fait jusqu'à aujourd'hui, mais il veut que nous puissions aller plus loin dans la communion, dans cette vie de l'Esprit. J'aimerais lire quelques textes d'introduction dans le livre, l'Épître aux Éphésiens. Nous avons lu ce texte ce matin, mais je l'avais déjà sur le cœur, Éphésiens 6, et nous lirons à partir du verset 10. Éphésiens 6, 10. « Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur, et par sa force toute-puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Amen. » Nous aurons l'occasion de méditer la suite, mais ce soir, ce sera juste une introduction. Dans Colossiens, chapitre 2, verset 1er, vous l'avez compris, nous parlerons de ce combat spirituel. Colossiens, chapitre 2, verset 1. « Je veux en effet que vous sachiez combien est grand le combat que je soutiens pour vous et pour tous ceux qui sont à Laodicée et pour tous ceux qui n'ont pas vu mon visage. » Donc, Paul exprime là l'intensité, la grandeur de ce combat. Dans Romains chapitre 13, verset 12, « La nuit est avancée, le jour approche, dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. » 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 8, « Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de l'amour, ayant pour casque l'espérance du salut. » Et enfin, un dernier texte d'introduction, 1 Pierre chapitre 5, verset 8, « Soyez sobres, veillez, votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. » Comme je le disais, tout ce qui est dans la parole, tous les thèmes, que ce soit l'adoration, que ce soit la louange, que ce soit cette vie de l'Esprit, tout est profond parce que notre Dieu est profond et depuis des années nous le connaissons, mais nous avons encore tellement besoin de le connaître. Et ce soir, ce sera du combat spirituel, le combat de la foi, le véritable combat, le seul, celui prévu par Dieu, celui qui est efficace, celui qui porte du fruit. Alors nous verrons ensemble le pourquoi de ce combat, les véritables ennemis, la nature de ce combat, la foi et les ressources que nous avons en Dieu pour ce combat, les armes spirituelles puissantes que nous avons, que l'Esprit de Dieu puisse nous révéler ce que nous avons reçu de Dieu, ce que nous avons reçu de Christ. Et la Bible nous dit que nous avons tout reçu, tout ce qui est nécessaire, tout ce dont nous avons besoin pour mener une vie de victoire, de piété, nous l'avons reçu de la part de Dieu. À nous de le recevoir et de le vivre. Christ nous l'a acquise à la croix du calvaire, il nous a acquis cela. Eisenhower disait, la guerre est une chose terrible, mais si vous voulez y entrer, vous devez y entrer complètement. La vision que nous avons de l'Évangile, de la vie chrétienne, déterminera aussi la pratique que nous avons. Ce n'est pas simplement, voilà, j'ai été sauvé et je vis maintenant tant bien que mal. Nous entrons dans une vie avec Dieu, une vie, la vie éternelle, une vie de communion, une vie qui reçoit de Dieu pour vivre ce que Dieu veut que nous vivions. Ce n'est pas ce que nous voulons vivre, mais c'est ce que Dieu veut que nous vivions. Et le combat spirituel est inclus dans cette vie que Dieu nous donne, et il est profond, et il est puissant, parce que notre adversaire, et nous le verrons, il est puissant. Dieu est tout puissant, mais notre adversaire est puissant, et il fait des ravages. Et quand il est parlé du jour, nous avons parlé plusieurs fois du jour, nous y sommes dans les jours mauvais. Et nous avons besoin de que le Saint-Esprit nous ouvre les yeux afin que nous recevions de lui ce qu'il a prévu pour nous. Il y a des années que nous prêchons l'Évangile et que Dieu fasse que nous puissions prêcher le véritable Évangile dans toute sa puissance. L'apôtre Paul disait que l'Évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, dans Romains 1, 16. C'est une puissance. L'Évangile, ce n'est pas seulement, et nous l'avons prêché, peut-être parfois partiellement, l'Évangile, oui, c'est un Évangile où nous recevons la paix de Dieu, la joie de Dieu, mais l'Évangile est aussi un Évangile exigeant. Nous le recevons gratuitement, nous recevons la vie éternelle gratuitement, mais le chemin avec le Seigneur, eh bien, est un chemin difficile et nous avons besoin de lui. Jésus, en tous les cas, quand il a annoncé la voie du salut, quand il a parlé à ses disciples de ceux qui voulaient le suivre, il a annoncé la couleur dès le début. Il n'a pas laissé les gens dans l'illusion en disant « ben, suivez-moi et vous verrez, suivez-moi et faites ce que vous pouvez pour me suivre ». Non, quand il a dit dans Matthieu chapitre 16 et verset 24, il dira à ses disciples « si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive ». Et qu'il me suive. Là, il y a un autre maître, il y a un autre royaume, il y a une autre vie, il y a une autre vision qui est à l'opposé total de la vision de ce monde, de la vision de l'homme naturel. C'est complètement à l'opposé. Quand nous nous engageons avec le Seigneur, il nous donne une autre vie, la vie éternelle. Il nous donne une autre espérance, une autre vision des choses. Il nous donne cette perspective pour l'éternité. Combien c'est bon, combien c'est glorieux, combien eh bien, nous sommes bénis de ce que Jésus nous a ouvert les yeux, de ce que nous pouvons maintenant marcher en nouveauté de vie. C'est un miracle, c'est une grâce extraordinaire. Et nous devrions, moi et vous, le louer encore davantage, en appréciant davantage d'où il nous a tirés et où il nous a introduits, où il nous a admis. C'est une vie... on ne peut pas là, tellement c'est grand, tellement c'est glorieux. L'auteur de l'Épître aux Hébreux parle d'un si grand salut. Oui, le salut de Dieu, il est grand, il est plus que tout sur cette terre. Le salut, c'est plus important que tout, parce que il détermine notre devenir éternel. Je crois qu'on ne le remercie pas assez, qu'on ne le loue pas assez. Seigneur, ouvre-nous les yeux et que nous puissions nous réjouir en toi. Oui, notre joie, elle est en lui, elle est dans le Seigneur. Il y a tellement de choses qui nous découragent ici-bas. Il y a des bons moments, mais il y a des choses qui nous découragent et qui nous attristent. Mais quand nous tournons les regards vers lui, nous sommes rayonnants de joie. La croix, c'est un choix. La croix, c'est un lieu de dépouillement, un lieu de mort, un lieu aussi de combat, mais un lieu de victoire. La croix est un lieu de victoire. Jésus a accompli la plus grande de toutes les victoires sur la croix du calvaire. Il dit même qu'il a dépouillé les autorités, les dominations, dans Colossiens au chapitre 2. Il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles, par la croix. Est-ce qu'on réalise cette victoire que Jésus a accomplie? Moi, pour ma part, je dis, Seigneur, je ne réalise pas assez. Je ne réalise pas assez la profondeur, la grandeur de cette victoire, les conséquences pour nos vies. On l'a réalisé, mais que le Saint-Esprit ouvre les yeux de notre cœur et que nous puissions voir ce que Christ a accompli. Pourquoi ce combat? Pourquoi ce combat? Finalement, pourquoi ce combat? On devrait dire, voilà, on a reçu le salut, on a reçu la joie de Dieu, la paix de Dieu, eh bien, on peut vivre maintenant tranquillement, et puis, voilà, on prie, on lit la Bible, et si on a besoin, on demande au Seigneur, il nous exauce. Mais il y a un combat inévitable. Si nous avons reçu le véritable évangile, le véritable Christ en nous, si nous avons reçu cette vie impérissable, si nous avons reçu le Saint-Esprit, eh bien, le combat, il est inévitable. Il est malgré nous. Nous entrons dans un combat, qu'on le veuille ou non, eh bien, nous entrons dans ce combat. Ce véritable évangile, non seulement c'est un message à contre-courant de l'esprit de ce monde, mais l'esprit de l'évangile est une puissance extraordinaire. Et dans les lieux célestes, ça réagit. Dans les lieux célestes, il y a eh bien, des combats qui se livrent. Il y a des réactions, pourquoi? Car ce sont des hommes et des femmes qui, en acceptant l'évangile, échappent au royaume de Satan. Si nous sommes remplis du Saint-Esprit, on va déranger le diable parce qu'il y a des âmes qui vont se tourner vers Dieu et elles échappent au royaume des ténèbres. C'est ça la réalité de la délivrance du Seigneur. C'est cela la réalité. Jésus avait la plénitude de l'Esprit. Et en ayant une vie sans péché, remplie de compassion, il a déchaîné l'hostilité, la méchanceté des politiques et des religieux. Mais derrière ces autorités-là, il y avait une influence du royaume des ténèbres. Il y a deux royaumes qui se rencontrent. Jésus a déchaîné, mais lui, il n'avait jamais péché, rempli d'amour. On se dit, mais il y a quelque chose qui... Eh oui, il y a une puissance, il y a derrière. Jésus dira aux disciples, ce n'est pas, vous n'êtes pas plus que le maître, ils m'ont haï, ils m'ont persécuté, il en sera de même pour vous. Il en sera de même pour vous. Jésus, en venant sur cette terre, il rentrait dans les synagogues. Vous voyez, avant que Jésus vienne, je crois que je l'ai noté quelque part, mais j'anticipe, avant que Jésus vienne, dans les synagogues, eh bien, il y avait autant les hommes religieux que les démons. Ils cohabitaient, et tout était tranquille et paisible. Mais quand Jésus est entré dans la synagogue, il y a eu réaction. Pourquoi? Parce qu'il y avait l'Esprit de Dieu, il y avait le véritable message, il y avait Dieu en lui qui était au milieu de son peuple qui priait pourtant, le peuple qui venait sabbat après sabbat, qui se réjouissait certainement, qui priait honnêtement, sincèrement, mais il n'y avait rien qui se passait. Mais quand Jésus entrait dans la synagogue, là il y a eu le combat, le conflit. Parce que ces deux puissances, elles se rencontraient. Et nous avons, et nous le verrons tout à l'heure, dans les synagogues auxquelles Jésus est rentré, eh bien, il a déclenché l'hostilité. Que nous puissions déclencher l'hostilité. C'est bon signe. Si nous sommes remplis du Saint-Esprit, nous déclenchons l'hostilité. Le véritable combat, nous y entrons si nous sommes remplis de l'Esprit. En tous les cas, si nous... Ce sera juste une introduction, je ne veux pas prendre trop de temps pour introduire. Mais si nous sommes attentifs à l'Épître aux Éphésiens, ce texte ce texte se trouve à la fin, ce que nous avons lu, et dépend du reste. La guerre des chrétiens, ça se trouve à la fin, au chapitre 6, mais quand nous lisons l'Épître aux Hébreux, nous voyons dans le chapitre 1er, bon, je résume rapidement, dans le chapitre 1er, il y a la prééminence de Christ. Il est au-dessus de tout, au-dessus de tous. Il est le chef, il est celui qui a toute autorité dans le ciel et sur la terre. Quand nous lisons le chapitre 1er, et J.P. a fait allusion au verset 17, que l'Esprit ouvre les yeux du cœur pour que nous puissions comprendre ce qui s'attache à notre appel, la puissance qui est en Christ. Il n'y a que l'Esprit de Dieu qui peut nous le révéler, sinon nous faisons des déductions. Oui, il est puissant, c'est vrai, mais nous ne comprenons pas spirituellement, mais que l'Esprit puisse atteindre les yeux de notre cœur pour que nous sachions. Et ensuite, au chapitre 2, vous avez le salut en lui, le salut par grâce, par le moyen de la foi. Il nous introduit dans ce qu'il a prévu, ce qu'il a préparé, ce qu'il a acquis à la croix du calvaire. Il nous introduit dans le chapitre 2 et nous avons le fondement. Dans la fin du chapitre 2, il y a le fondement, Christ, le message des apôtres. Ensuite, le chapitre 3, le chapitre 4, il est question de cette vie avec lui, de ce mystère, cette communion avec lui. Dans le chapitre 3, quand Paul prie pour les Éphésiens, il parle du cœur que Christ habite dans notre cœur et que nous puissions comprendre, etc. Nous allons au chapitre 4, il y a la vie chrétienne. Et nous arrivons à ce chapitre 5, et un verset qui est important, Éphésiens 5, 18, nous avons eu l'occasion d'en parler. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Ne vous enivrez pas de vin, car c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'Esprit. Voilà le verset clé là-dedans, dans le chapitre 5. Soyez au contraire remplis de l'Esprit. Et nous avons tout le reste qui découle de soyez remplis de l'Esprit. Comment ? Quelles sont les conséquences d'une vie remplie de l'Esprit ? Eh bien, il y a dans le cœur de la reconnaissance, il y a de la louange, il y a un entretien, entretenez-vous par des psaumes, des cantiques spirituels, célébrant de tout votre cœur le Seigneur. Voilà un cœur qui est rempli du Saint-Esprit, eh bien, il glorifie Jésus, il élève Jésus, il a un cœur reconnaissant. Non, il n'y a plus de plainte de ceci, de cela, mais il glorifie le Seigneur, c'est une vie remplie de l'Esprit. L'Esprit de Dieu place Jésus sur le trône de notre cœur. C'est la mission, le ministère du Saint-Esprit, c'est de placer Jésus sur le trône de notre cœur. Et il y a cela. Et après, nous arrivons à partir du verset 22, il est question de la soumission. Et vous verrez, c'est important, c'est pas le thème, on peut pas, mais la soumission, époux-épouse. Nous apercevons que c'est important, une vie remplie de l'Esprit. Il y a soumission à Christ, mais il y a soumission les uns aux autres. Et nous continuons, il y a soumission des enfants aux parents et soumission des employés aux patrons. Et vous continuez. La vie de l'Esprit, il y a de l'ordre, il y a une autorité, il y a une soumission. Et cet homme dira un jour à Jésus, mais il a compris le système, il dit, moi qui suis soumis à des supérieurs, mais j'ai aussi des soldats qui je dis, fais ceci, fais cela, ils le font. Il y a une autorité au-dessus. Et nous apercevons que là, dans ce chapitre 6, il y a, quand il y a l'Esprit, il y a soumission et autorité. Il y a de l'ordre. Il y a chacun à sa place. Le Saint-Esprit nous place comme il le veut. Et enfin, nous arrivons à ce chapitre 6, où là, il y a le véritable combat, le combat de l'Esprit. Il y a ce combat de la foi, ce véritable combat. Vous allez me dire, mes frères, moi je prie, moi aussi nous prions, mais je crois humblement que nous avons besoin d'entrer dans une autre dimension, dans la prière et dans le combat et dans l'intercession. Je ne sais pas si c'est votre constat, non ? Mais moi c'est le mien, nous avons besoin, quand je lis les textes, je me dis, mais le combat il est encore plus grand que ce que nous avons connu, que ce que nous connaissons. Il est plus grand parce que c'est l'Esprit de Dieu qui nous conduit dans ce combat. Et je priais ce matin, et comme David a prié, Seigneur, hisse-moi sur ce rocher que je ne peux atteindre. La vie chrétienne, ce n'est pas ce que je peux faire, ce n'est pas juste ce que je comprends, ce n'est pas juste ce que je pense, mais la vie chrétienne, c'est une vie de l'esprit qui nous conduit là où nous ne pouvons pas faire normalement, naturellement, humainement, nous ne pouvons pas, mais l'esprit nous conduit dans ces endroits-là. Et nous en avons besoin. Jésus nous a acquis la victoire pour cela. Une église triomphante, une église puissante, une église qui remporte des victoires dans le combat, le véritable combat. Parce que l'ennemi, eh bien lui, il se déchaîne, mais nous voulons entrer dans la victoire de Christ. Si ce n'est pas l'esprit qui nous conduit dans ce combat, on ne pourra pas. Ça nous dépasse. On ne pourra même pas l'envisager. Il nous est dit dans le texte, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations et les autorités. Le meilleur exemple de ce combat, nous le trouvons bien sûr dans les évangiles, je l'ai effleuré tout à l'heure, nous trouvons ce véritable combat dans les évangiles, mais nous le trouvons aussi dans les épîtres, avec Paul, mais on ne peut pas citer trop d'exemples. Comme je l'ai dit, Jésus est entré dans la synagogue dans Marc chapitre 1er, versets 21 à 28. Il y a cet homme qui est possédé, qui est lié. Cet homme, il était tranquille, eh bien, avec les autres dans la synagogue. Mais est-ce que les démons ont à voir avec la synagogue, avec le temple, avec l'église? Est-ce que les démons, est-ce qu'il peut y avoir cohabitation entre Christ et les démons? Je vous pose la question. Il ne peut pas y avoir de cohabitation, et Paul le dit. On ne peut pas manger en même temps la table du Seigneur et la table des démons. Et là, dans cette synagogue, eh bien, cet homme était tranquille. Et il faisait l'office, il faisait leur service. Il y avait la lecture de la loi, des prophètes, des psaumes. Il y avait la prière, il y avait tout qui était. Mais les démons y étaient aussi. Et ils étaient apparemment tranquilles. Mais quand Jésus va rentrer, il va agiter cet homme et la Bible nous dit que tous ont été surpris, mais quel est donc celui-ci? Il parle comme ayant autorité. Il ne parle pas comme les scribes et les pharisiens, mais il parle comme ayant autorité. Et oui, il est soumis au Père. Et oui, il est rempli du Saint-Esprit. Et oui, il a une autorité. Frères et sœurs, nous devons entrer dans cette dimension-là. Le Seigneur veut nous y conduire parce que c'est pour cela qu'il est mort. Dans Luc au chapitre 13, à partir du verset 10, il y a cette femme qui est courbée, qui est à la synagogue et qui est liée depuis 18 ans. Et elle entre et est dans la synagogue et certainement elle a une espérance, elle se dit « mais le Seigneur va me bénir ce sabbat ». Une femme liée, courbée. Et quand Jésus va rentrer, bien sûr, il a discerné, bien sûr, il va dire à cette femme une parole d'autorité, une parole de délivrance. « Femme, redresse-toi !» Et cette femme va se redresser, parce que Jésus a l'autorité, parce qu'il a la plénitude du Saint-Esprit. Et les démons sont obligés de plier, le diable est obligé de reculer. Et les gens ont murmuré. Mais Jésus a dit, mais cette femme, qui est une fille d'Abraham, ne fallait-elle pas qu'elle soit délivrée même le jour du sabbat? Et Jésus a délivré cette femme. On peut arrêter là les exemples, mais il y en a d'autres. Quand Jésus arrivait, il agitait ce jeune homme qui vivait dans les sépulcres, qui se meurtrissait, il se faisait du mal. Quand Jésus est arrivé, il y a eu confrontation de ces deux puissances, de ces deux autorités. Il y a eu confrontation et ce jeune homme dira, mais qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils de David, qu'y a-t-il entre moi et toi? Oui, il y a un gouffre, il n'y a rien à voir entre les ténèbres et la lumière, entre les démons et Jésus, il n'y a rien à voir. Les démons n'ont rien à faire, il n'y a rien à voir, les ténèbres n'ont rien à faire. Ni dans l'Église, ni dans nos vies, rien à faire. Et ce jeune homme va être complètement libéré. La Bible nous dit qu'il était assis, vêtu et dans son bon sens. quel miracle, quelle transformation, quelle puissance. Ce jeune homme qui était malheureux, il a été complètement libéré. C'est ça l'évangile, frères et sœurs, c'est ça. Nous le trouvons dans les textes, guérison, délivrance. C'est cela l'évangile, la puissance de l'évangile à l'œuvre, elle est là. Et nous voulons vivre ces choses. On ne veut pas s'habituer, mais on veut vivre ces choses. On le voit sporadiquement, mais nous devons le voir régulièrement. Au milieu de nous. Eh oui, au milieu de nous, ça nous engage, c'est chacun d'entre nous. Si nous entrons dans cette vie où nous voulons être remplis du Saint-Esprit, eh bien nous allons avoir des combats que nous n'avions pas, mais il y aura des victoires glorieuses. Glorieuses, des choses qui sont décrites dans la parole de Dieu, hein, des choses glorieuses. D'ailleurs, nous avons l'épisode où le diable va tenter Jésus. Dans Matthieu au chapitre 4 et dans Luc au chapitre 4 et verset 1er, nous avons cet épisode où Jésus, il nous est dit, Jésus rempli du Saint-Esprit, Luc chapitre 4 verset 1er, Jésus rempli du Saint-Esprit, on va dire il est rempli du Saint-Esprit, il va être bien, il va être... Et c'est à ce moment-là que l'Esprit le conduit dans le désert et qu'il a ce combat, cette tentation avec le diable. Et vous voyez là où le diable l'a tenté, c'est un rusé, et il l'a tenté sur son identité, sur son autorité, sur la foi, sur la parole de Dieu, sur les éléments essentiels, si tu es le Fils de Dieu, si... Non, Jésus a remporté bien sûr cette victoire, il a remporté toutes les victoires, non, et remportera celle de la croix. Mais parce qu'il était rempli du Saint-Esprit. Il y a cette autorité. On peut essayer, et j'ai vu tant de fois des hommes essayer de crier pour que les démons soient chassés, est-ce que nous avons besoin de crier pour impressionner les démons ? Pas du tout. Si nous avons l'autorité, il n'y a pas besoin de hurler. Les démons s'enfuient. Alors, oui, ceux qui essayent, nous avons cet épisode, on le cite souvent dans les Actes des Apôtres, chapitre 19, il y avait quelques fils de Séva, etc., qui ont vu l'apôtre Paul chasser les démons, qui ont vu l'apôtre Paul avec cette puissance, et ils se sont dit, nous aussi on va faire pareil. Bon, ils ont invoqué le nom de Jésus cet homme qui était lié, possédé, et les démons ont dit, mais nous connaissons Paul et nous connaissons Jésus et nous savons qui est Paul. En d'autres termes, nous connaissons ceux qui ont autorité, mais vous, on ne vous connaît pas. Et ils sont partis à moitié nus, blessés par cet homme qui était possédé. Non, l'autorité, c'est en Christ. Ce n'est pas une autorité humaine, ce n'est pas un autoritarisme, ce n'est pas les décibels dans la voix qui vont faire fuir. Non, c'est rempli du Saint-Esprit. Et nous avons bien sûr l'apôtre Paul qui dira à Timothée dans 1 Timothée 5, 22, « N'impose pas les mains, n'impose les mains à personne avec précipitation. » Et ne participe pas au péché d'autrui. N'impose pas les mains avec précipitation. Il nous faut véritablement que l'Esprit de Dieu nous conduise, nous donne du discernement. Ce n'est pas réservé aux pasteurs, mais je crois que c'est réservé à chacun d'entre nous. Nous pouvons nous trouver confrontés, et vous pouvez vous trouver confrontés à des situations où eh bien, vous trouvez quelqu'un et qui n'est pas tout seul. Vous allez dire, je vais vite appeler le pasteur, mais vous priez. Les disciples priaient, ils priaient, mais il faut être rempli du Saint-Esprit, avoir la connaissance des Écritures, avoir cette maturité, c'est pour chacun d'entre nous. Est-ce que vous croyez que c'est pour chacun d'entre nous ? Quand Jésus dit « Allez, guérissez les malades », c'était aux disciples qu'il l'a dit. Et nous avons besoin d'entrer dans cette dimension, frères et sœurs, sortir de... La religiosité, l'homme naturel et l'homme même religieux, aime bien cela. Nous avons notre confort, nous avons, oui, une réunion où ça s'agite, ça dérange des personnes, mais moi je dis béni soit le Seigneur si ça dérange au milieu de nous et qu'il y ait une action puissante de son esprit. Eh oui, Jésus dérangeait les synagogues. Et on a voulu le chasser quand il y a eu ces choses, mais regardez cet homme qui l'a délivré des démons. Est-ce que, si on l'avait interrogé, est-ce que ça a été bon pour vous, ce sabbat, là, ce culte? Ah, excellent! J'étais malheureux depuis des années, et maintenant je suis délivré. Cette femme qui était courbée, si on l'interrogeait en disant, oui, il y a eu du remue-ménage, là, qu'est-ce qui s'est passé? Elle dit, mais moi, depuis 18 ans, j'étais courbée. Et j'étais lié par Satan. Et Jésus, une parole, cette femme s'est redressée. Il nous faut entrer dans cette dimension, parce que la Bible nous parle de ces choses. Ce n'est pas une invention, une lubie, mais la Bible nous parle de ces choses. Quand Paul parle, là, dans Éphésiens 6, c'est profond. C'est profond quand il parle. Ce n'est pas la chair et le sang. Ce n'est pas le combat contre des personnes, contre des idées, non, pas du tout. Et pourtant, vous pourrez me dire, mais moi, des problèmes, j'ai avec des personnes. Mais en fait, on n'a pas à lutter contre des personnes. Mais il y a des puissances qui agitent derrière. Et c'est là où nous avons besoin du discernement, de ne pas entrer dans un combat charnel. Un combat charnel, ça nous épuise. Il n'y a pas de résultat, ça nous agace, ça nous laisse. Mais le combat spirituel, cela, c'est des grandes victoires pour Christ. C'est des grandes victoires. On n'a pas à lutter contre la chair et le sang. Derrière tout homme, toute femme, tout enfant, derrière les paroles, les actions, il y a une influence, il y a une puissance, il y a une autorité. Et en tant que chrétien, ce n'est... Quand c'est l'Esprit de Dieu qui nous conduit, il nous conduit à la victoire. Jésus dira à Pierre, cette parole qui semble rude quand même, il lui dit « Arrière de moi, Satan ». Quand il prononce le nom de Satan, ça veut dire l'accusateur, le calomniateur, il lui dit « Arrière de moi, Satan, car tu n'as pas la pensée de Dieu, tu ne conçois pas les choses de Dieu ». Tu n'as que des pensées humaines. Derrière ce que Pierre a dit, il y a une puissance et c'est ténébreux. Parce que finalement, qu'est-ce qu'il dit à Jésus? Non, tu n'iras pas à la croix. Non, non, à Dieu ne plaise, tu n'iras pas à la croix. Mais c'est démoniaque, c'est diabolique. Parce que la croix, c'est la source de notre salut. La croix, c'est la source de notre délivrance. Et si Jésus n'était pas allé à la croix, aucun de nous serait sauvé. Et Pierre lui dit en d'autres termes, non, non, tu n'iras pas à la croix. Il n'avait pas compris encore, il n'avait pas réalisé. Mais Jésus lui dit en quelque sorte, c'est grave ce que tu dis. C'est grave. Ce n'est pas mon Père qui t'a révélé ces choses. Paul, dans le verset 12, utilise plusieurs mots pour décrire eh bien, cet ennemi invisible et le territoire dans lequel il règne, c'est quand même profond. On ne peut pas aller trop loin parce qu'il n'y a pas les détails, les tenants, les aboutissants, mais on s'aperçoit quand même qu'il y a des ennemis puissants qui ont une certaine autorité et qui règnent autour de la terre dans les lieux célestes. Il y a un règne qui est là, mais nous voulons combattre avec le Seigneur, avec l'Esprit de Dieu et avec les armes de Dieu. Et là, nous sommes victorieux. Parce qu'il ne faut pas se cacher. Le diable fait des ravages dans les familles, dans les couples, dans les églises. Il fait des ravages. Vous en arrivez à cette conclusion aussi? Oui? Ah oui. Il faudrait être aveugle si on ne le voit pas. Mais nous voulons combattre le bon combat. Et regagner du terrain. Comme David, il est dit qu'il a récupéré tout ce que l'ennemi avait pris. J'aime cette parole quand David arrive à Tsiklag, le village, la ville est brûlée, il y a les femmes, les enfants, le bétail qui est emporté. Et David, il était, il y a de quoi être triste et découragé. Mais il dit, s'appuyant sur l'Éternel, il reprit courage. S'appuyant sur l'Éternel, il reprit courage. Et il a tout récupéré. Il a tout récupéré. Que Dieu fasse que nous puissions récupérer. Bien sûr, c'est pas avec nos mots qu'on va convaincre quelqu'un qui s'est éloigné, mais par la prière, le combat. Eh bien, que Dieu nous donne de voir les nôtres peut-être éloignés qui reviennent au Seigneur. Ils ne savent pas pourquoi, comment, mais l'Esprit de Dieu les a saisis et les a ramenés à la maison. Il y a une hiérarchie contrôlée par Satan lui-même dans les lieux célestes. Il règne dans les sphères des ténèbres. Mais ça nous parle d'autorité, de pouvoir. Mais je voudrais citer un verset qui est formidable dans Colossiens chapitre 1er, verset 13. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. Il nous a délivrés de la puissance, de l'autorité des ténèbres. Nous avons été libérés. Le diable n'a plus cette emprise qu'il avait sur nous. Nous étions sous sa férule, qu'on le veut ou non, même si nous étions bien élevés, corrects, nous étions eh bien, sous l'influence de Satan. Quelle grâce, quelle bénédiction, quelle bénédiction. Il nous retenait captifs et Jésus nous a délivrés. D'ailleurs, l'apôtre Paul dira dans Actes des Apôtres, chapitre 26 et verset 18, « Et c'est Dieu qui lui parle, afin que tu ouvres les yeux de ceux qui sont encore dehors, afin que tu leur ouvres les yeux, pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu. » Voyez, il y a une réalité dans la parole de Dieu. Parfois, nous, on n'est pas dans cette réalité. On pense que c'est notre influence, quelques paroles, mais il y a une puissance derrière qui retient les gens captifs. D'ailleurs, je crois que j'ai noté ce verset aussi. Oui, quand l'homme décide de ne pas obéir à l'Évangile, à la vérité révélée, il donne accès à cette puissance de ténèbres qui maintient dans les liens, dans l'aveuglement, dans l'incrédulité. Je lis ce verset dans 2 Corinthiens chapitre 4, versets 3 et 4. « Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'esprit de leur intelligence afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile de Christ » qui est l'image du Dieu, la gloire de Christ qui est l'image de Dieu. L'ennemi qui a aveuglé l'esprit, qui a aveuglé, afin qu'il ne voit pas briller la splendeur de l'Évangile. On a l'impression que c'est juste un choix, ils ne veulent pas. Mais en refusant, c'est l'ennemi qui les maintient dans l'incrédulité. Et mes frères et sœurs, est-ce qu'il ne faut pas une puissance pour qu'ils soient libérés ? Que le voile soit ôté. Est-ce qu'il n'y a pas un combat spirituel? Si le diable les tient comme cela, dans l'aveuglement, dans l'incrédulité, est-ce qu'il n'y a pas besoin d'une puissance afin qu'ils soient libérés de cela? Moi, je crois. On m'a dit un jour, il faut parler de Jésus, il faut parler de l'amour de Jésus, voilà, l'évangile, c'est ça, ne parle pas du diable et il te laissera tranquille. J'ai jamais entendu une aberration comme cela. Ne parle pas du diable, il te laissera tranquille. Il laissera l'Église tranquille. C'est de la folie. En tous les cas, nous voulons parler de ce que la Bible parle. Hein. Tout ce que la Bible dit, il faut en parler. Elle parle longuement de l'ennemi, de ses tactiques, de ses stratégies. Paul dira, nous n'ignorons pas les desseins du diable. Et la Bible nous met au courant, elle nous met en garde, elle nous parle pas, c'est pas... les bisounours, voilà, on est sauvés, tout va bien, tout... Non, il y a vraiment un combat dans les lieux célestes. Et nous avons besoin de comprendre que l'Esprit de Dieu nous éclaire et que nous entrions de plein pied dans ce combat. C'est pas juste la prière pour la journée, la prière pour... Il faut le faire, mais c'est une autre dimension. Et si nous n'avons pas, ne sommes pas remplis de l'Esprit, nous ne pouvons pas entrer dans cette dimension de combat que le Seigneur nous appelle les uns et les autres à rentrer. Et je vais terminer. Ce que Paul dira, nous n'ignorons pas les desseins du diable. Oui, les tactiques, la séduction, la tentation, le complot, ça c'est ce qui se passe. Et il nous faut prier, bien sûr, chaque jour. Mais dans la prière, il y a l'intercession, le combat, la lutte. Et le mot employé, nous n'avons pas à lutter. Le mot « lutte », et je lisais sur un commentaire, il n'y a que dans ce texte-là qu'il est cité, le mot « lutte », et c'est difficile un petit peu à définir, mais c'est le combat de corps à corps. C'est l'ennemi qui veut saisir à la gorge et crever les yeux. Ça fait peur ? C'est ce qui se passe dans les lieux célestes, saisir. C'est un combat, c'est au corps à corps. C'est cela le véritable combat. Et il y a la véritable victoire aussi. Saisir à la gorge. Le diable, il est cruel. Le diable, il fait tout pour essayer d'éviter à une personne le salut, la vie éternelle. Il fera tout pour que des hommes et des femmes n'entrent pas dans le royaume de Dieu. Mais comme je le disais, Dieu est souverain, et nous croyons qu'il nous a choisis, et nous croyons qu'il nous garde. Nous ne faisons pas le poids contre l'ennemi. En un instant, il nous détruit, mais nous sommes dans le creux de la main du Seigneur. Il nous garde, il nous protège. C'est lui qui nous a choisis. Et malgré nos faiblesses, nos limites, le Seigneur nous garde, mais il nous dit maintenant, sois fort. Et nous le verrons ensemble, fortifiez-vous dans le Seigneur. Non, vous n'avez pas à lutter contre la chair et le sang, ce n'est pas des discussions. Vous avez besoin d'entrer dans ce combat de plein pied parce que je vous y appelle. Et ce n'est pas une option, le Seigneur nous y appelle les uns et les autres à rentrer dans ce combat. Il nous faut comprendre la nature de ce combat et l'intensité de ce combat, les ennemis, afin que, étant conscients, nous entrions dans ce combat avec les armes et la puissance du Seigneur. C'était juste une introduction ce soir, mais que nous puissions réfléchir, méditer. Oui, l'Église a besoin de puissance. Oui, l'Église a besoin de rentrer dans une dimension plus grande, dans l'intercession, le combat, afin que nous puissions voir des choses pour les malades, pour des gens qui sont peut-être liés. Certains rentrent dans ce lieu, ils sont liés dans leur esprit, non ? Et oui, certains rentrent même avec peut-être une idée de suicide. Il y a besoin, frères et sœurs, ce n'est pas le pasteur et quelques frères matures, non, c'est toute l'Église qui a besoin d'entrer dans cette communion, dans cette dépendance du Seigneur, dans cette soumission au Seigneur, afin que l'Esprit de Dieu puisse nous animer, nous remplir, nous conduire, nous donner du discernement, et que nous puissions voir le bras de Dieu, la main invisible, comme nous disions dimanche matin, la main invisible de Dieu, se manifester au milieu de nous. Et que nous puissions voir quelqu'un dire, voilà, ça faisait des années que je luttais avec cela, et le Seigneur m'a délivré ce matin ou ce soir. On veut voir ces choses au milieu de nous, frères et sœurs. Entrons vraiment, méditons la parole et entrons dans ce combat, ce véritable combat de l'Esprit. Seigneur, nous te bénissons et nous te louons. Oui, tu veux que l'Église soit forte. Seigneur, non pas de nos forces à nous n'en avons pas, Seigneur, mais forte de ta force à toi. Seigneur, rempli de ton Esprit, qui est un esprit de force, d'amour et de sagesse. Seigneur, ton Esprit, remplis-nous, donne-nous de nous soumettre, d'obéir, de plier le genou devant toi, devant ta parole, Seigneur, afin que nous ayons cette autorité dans la prière, dans l'intercession, dans le combat. Seigneur, je te prie pour mes frères et sœurs et pour moi-même, et je veux reciter cette parole de David. Hisse-nous sur ce rocher que nous ne pouvons pas atteindre. Seigneur, que ton esprit nous hisse sur ce rocher. Au nom de Jésus, nous te le demandons, Père. Amen.